c'était Niagara Pac-Man. Bonjour et bienvenue. Elle est de retour, la speakerine. Celle qui musicalement s'y connaît plus que moi. Et elle a raison.
Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 7 septembre 2013. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jan Oded, et à 17h, Éphémère, cette l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre actualité Media Buzz Clash People que Morandini attend plus.
Eh oui, au revoir Morandini.
Précédemment dans le supplément week-end.
Sully qui a la corpulence, la pratique et les atouts physiques. Et puis aussi un certain héritage familial, puisque les Sullivan, c'est une grande famille de terreur qui doit se transmettre de père en fils.
Achtung, Achtung, B-Alarm.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique. Avec, dans cet épisode, du sport et d'Ashkrich.
Je crois que ça a chié là.
Bon, alors il est toujours trop court.
Ouais, et puis je crois pas qu'on va utiliser celui-là. On se rapproche de celui qu'on va utiliser, ouais. Du nouveau. Je sais que vous n'êtes pas encore désensibilisés au précédent générique. Et le nouveau devrait arriver normalement début octobre, puisque c'est le lancement officiel de la nouvelle saison sur Radio FMR.
Ah bon?
Ah oui, voilà. Et de notre 10e saison à l'antenne. Et je suis désolé pour le mixage de merde, mais je l'ai fait en 2 minutes. Voilà, hop, vite fait. Qu'est-ce que je vais prendre? Et puis j'ai pris le dernier morceau que j'avais au hasard dans la playlist. B-Alarm, c'est extrait d'une compilation qui s'appelle Cosmos, avec un K. Puisque c'est les bandes-sons originales des films de science-fiction est-allemand des années 60-70.
Yes.
Ouais, enfin, vous voyez le genre. C'est assez fun, je trouve. C'est marrant, c'est kitschos. Ah, ça fleure bon le positivisme, camarade. Le soviétisme scientifique et tout ça. Enfin, bref. Et tout le reste. Bonjour et bienvenue. Bonjour du sport.
Bonjour.
Eh oui, il est de retour. Il était parti. Ouais. Je tiens à signaler pour ceux qui suivent son blog,
chez les Vikings.
Qui ont abandonné son blog. Et ben ça y est, il est revenu avec tout plein de critiques de romans nordiques, puisqu'il est allé au Danemark et il préfère les lire en VO là-bas,
ouais,
sur
non,
place.
Pas, là.
Il trouve qu'avec la lumière, c'est beaucoup mieux.
Non, là quand même pas, parce que vraiment le danois est une langue assez incompréhensible. Faut dire ce qui est. Même si on s'y essaye un peu. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Bon, mais par contre, bon, c'est des gens très, très, très charmants, parce que pratiquement tous et toutes, ils parlent anglais, un minimum. On dirait que c'est leur seconde langue. Enfin bon, qu'ils ont deux langues natales, en fait, le danois et l'anglais. Hein, donc de ce côté-là, ça se passe plutôt bien.
Bah tant mieux. En tout cas, j'espère que tu as vu plein de choses. J'ai vu tes chroniques arriver les unes après les autres. J'ai fait wow. Et
ouais, mais j'avais pris d'avance avant les vacances.
Et ça fait comment de les relire sous le soleil local, sous ces latitudes?
Oh,
t'as
ben
eu beau
non,
temps, j'espère.
Non. Oui.
Impeccable. La semaine dernière, on n'était pas là, faute de matière et suite à l'épuisement total. Je vous rassure, je suis toujours épuisé. Pas de soucis. Hein. Heureusement, du sport est là, c'est la rentrée télévisuelle. Donc forcément, il y a plein de trucs, vraiment plein. Il y a aussi plein de BD, j'ai pas eu le temps de les lire toutes, franchement il y a un sacré paquet, j'ai commencé, mais il y a une série, j'ai pas eu le temps de lire tous les albums qui sont arrivés, donc on en parlera la semaine prochaine, et ça fera plaisir à du sport, c'est un polar hard-boiled.
Cool.
Et toi, tout à l'heure, tu vas introduire, si je puis dire, la deuxième heure de ton émission, celle qui a lieu de 14 à 15, si je me trompe.
13h30.
Oui, mais la partie musicale.
Ouais, non, bon, bon, on va peut-être faire l'impasse pour cette semaine, mais enfin bon, on va parler un petit peu de musique, hein, de toute façon. Quoi.
Voilà, et je crois qu'on va arrêter à 13h30 pile, puisque Sushinet va arriver, et je crois qu'elle a un invité.
Tout à fait.
Alors, dont elle m'a pas dévoilé qui c'est.
Alors, voilà, donc ça va être la surprise pour toi. Et pratiquement pour moi aussi, de toute façon.
C'est super, c'est bien parti pour une interview.
Ouais, wow. Ouais.
Voilà, on est désolé pour la qualité du son du podcast la semaine dernière, d'il y a 15 jours, parce qu'il y a eu des re-réglages qui ont été faits à cause de la chaleur, qui ont été faits très suintement. Voilà. Donc le son était merdique pour notre enregistrement, on est vraiment désolé. Là, normalement, ça devrait aller mieux, parce que j'enregistre direct à la source pour une fois. Et accessoirement, qu'est-ce que je vais dire de plus? Rien de plus, sinon que notre community manager Morgan est toujours porté disparu, on ne sait pas ce qu'il devient. Il commence à me faire chier. Et qu'Ultimatum est retenu par un boulot très urgent. Et je crois qu'il s'agit vraiment de boulot, donc il est devant ses moniteurs à tapoter, à monter au petit poil de cul ses demi-frames d'image. On va commencer avec une revue de presse qui va être très 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 longue et importante et vous allez comprendre pourquoi en fait. Primo, je vais être un petit peu rapide, c'est vrai. Voilà, alors ça c'est ce qui arrive quand on s'installe en quatrième vitesse.
C'est que je sais plus où j'ai mis le journal.
Quel journal?
Il était sous le clavier avec
bah
le beurre.
Oui. Fameux,
voilà.
Fameux.
Et voilà, le psychopathe, psychopathe est arrivé, numéro 256
Obligé.
De septembre. Toujours pas de pub, nouvelle formule intégralement en couleur.
Toujours une nouvelle formule.
Mais là, encore plus blanc et plus crade. Donc 5€ en kiosque, c'est un mensuel tenu par Carly, vous le savez, avec dedans les collaborations de la famille, c'est-à-dire Melaka bien évidemment. Il y a aussi Jean-Luc Coudray, Noël Godin, Carit, Sirou, Noël Godin, l'entarteur,
oui.
Hein,
oui,
attention.
Oui.
Fume, c'est du belge, si je peux dire. Pixel, Riffo, Ivars, le Rouge, bref, toute la bande. Et c'est un spécial. Alors là, c'est une spéciale dédicace.
Ah.
Oui, puisque c'est bientôt la rentrée sur Radio FMR. Donc, c'est une spéciale Dossier nos ex, on les aime, on les adore. Enflammé, celle-ci est pour toi, puisque t'es de retour à l'antenne. On a poussé ton dossier, on t'a pas demandé ton avis. Oui, parce que. Voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas, Enflammée, qui est une chroniqueuse culinaire qui intervient de temps à autre à l'antenne. Oh, bulgare, ouais, c'est ça. Non, elle vient. Cambodgienne. A fait de la cuisson en direct à l'antenne. C'était des matinales qui étaient vraiment fun et vraiment très marrantes à mixer et à écouter. On s'était vraiment éclatés. Donc, elle va bientôt revenir. Là, il s'agit donc d'un spécial Les Ex dans le psychopathe. Avec Carly qui raconte dans Zlata la folle histoire du psychopathe, où après les 10 premiers numéros de la première série du psychopathe trimestriel, il était devenu mensuel grâce au professeur Choron qui lui a dit « mais je vais t'aider, il n'y a pas de souci », etc. Donc il raconte tout ça. Bien évidemment, c'est très intéressant, mais ça va plus, je vais dire, les vieux de la vieille, ceux qui veulent savoir, etc. Non, je pense que c'est intéressant aussi de savoir d'où vient en fait hein, les auteurs de BD actuellement. Dans cette spéciale Les Ex, eh ben, y a un sketch qui m'a fait mais vraiment pleurer de rire de modem. Il s'agit du Congrès international des ex de Madonna. Donc, c'est un peu glauque évidemment, mais en tout cas, moi je me suis bien marré à le lire. Il y a un spécial Copain d'avant, bien évidemment. Les ex de mes ex et tout ça. Il y a une nouvelle de Noël Godin. Et l'information est parfois plus hallucinante que la fiction. Savez-vous que Clint Eastwood est en cours de divorce avec sa femme et qui s'est mis avec, alors tenez-vous bien, avec la femme de l'amant de sa femme. Je vous jure que c'est ça, c'est vrai. Donc, Là, faut suivre, c'était le côté people, clash, buzz, et voilà, c'était pour toi, Jean-Marc. Pour toi, pour toi qui, grâce à toi, eh ben, NRJ 12 va remonter dans le niveau moyen du QI de l'humanité. Au niveau moyen de QI de l'humanité,
bah non, ça leur permettra de placer un petit peu plus d'ange de la télé-réalité.
Oh non, si, si. Non, mais allô, quoi.
Ah, t'es pas swag, toi.
Un salopard, ça devient difficile là d'enchaîner. Et je vais enchaîner avec le Beaux-Arts Magazine hors série qui est actuellement en kiosque.
Ça, c'est l'enchaînement.
C'est de l'enchaînement et il est difficile. Et c'est un spécial 75 ans de Spirou. Alors, on a déjà parlé du Spirou Magazine qui a fêté ses 75 ans avec un numéro double qui était sympathique. Là, il s'agit d'un livre qui est au prix hein, de ce genre de revue artistique, c'est-à-dire en général c'est plus proche de la dizaine d'euros, je vais dire, pour ce genre de spécial, mais là c'est un vrai bouquin cartonné, c'est vraiment un bel ouvrage qui est sorti, qui est documenté, 8,90€ en kiosque, foncez, achetez-le, ça vaut vraiment le coup, parce que vraiment, là j'en ai eu pour mon argent, et j'ai appris énormément de choses donc sur les 75 ans de Spirou, mais moi qui suis connaisseur de la bande dessinée, ça fait 20 ans que j'en parle sur cette antenne, et ben là vraiment j'ai eu du plaisir de ce côté-là. Les auteurs de ce hors-série sont plutôt bien renseignés, je crois même qu'il y en a qui participent au bouquin en plusieurs tomes sur l'histoire justement de la destinée des éditions Dupuis. Et on a de sacrées surprises, on a des jolis scoops qui arrivent, soit des scoops actuels, soit des scoops un petit peu en avant-première. De ce côté-là, vraiment, il y a à apprendre. Par exemple, parlons du créateur de Spirou. On sait tous que le nom Spirou a été donné par Jean Dupuis. Ils ont cherché une liste de personnages, cœur hardi, etc. Et puis ils ont raillé au fur et à mesure, ils se sont dit « Ouais, Spirou, parce que voilà, dans l'argot, Spirou, c'est espiègle, et c'est vraiment ce qu'on veut donner à la jeunesse, à la fois une droiture et à la fois un côté un petit peu fun. » C'est la grande opposition, bien évidemment, entre la littérature chrétienne, catholique, notamment, on pense bien évidemment au petit 20e dans lequel s'épanouissait Tintin à l'époque, depuis déjà une dizaine d'années, et les opinions de Jean Dupuis, la patrie et le roi, bien sûr, mais qui était beaucoup plus laïque, bien évidemment. Donc, de ce côté-là, ils ont recruté un dessinateur français qui marchait plutôt bien, qui s'appelait Robvel, qui est un peintre à l'époque. Seulement, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que Robvel travaillait à l'américaine, c'est-à-dire qu'en tant qu'illustrateur, il avait formé un atelier, et c'est sa femme qui écrivait les scénarios, et il avait un assistant. Et c'est cet assistant qui sera celui qui va illustrer principalement, en fait. Hein. Spirou, c'est lui qui va faire la première planche. Et quand vous regardez le peintre qui donne vie à Spirou d'un petit coup d'eau de vie, dans la première planche, le personnage qui est dessiné, c'est ni plus ni moins que la caricature de Luc Fafnet, qui est donc cet assistant en question. Alors là, de suite, on prend une toute autre perspective. On en apprend aussi sur pourquoi il a choisi un groom en rouge. Et il se trouve que Robvel a travaillé sur un paquebot en tant que steward. Il illustrait des fois les programmes. Et la livrée en rouge, c'était celle justement des grooms de ce paquebot, l'Île de France, en 1930. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a de suite pensé, en termes d'espièglerie, à des garçons en livrée, etc. Parce que sur les paquebots, à l'époque, le travail des mineurs était une certaine chose, on les prenait à partir de 13 ans, 18 ans, on avait des ados, des jeunes adultes, mais c'était plus des ados, justement, de ce côté-là. Avec toute l'énergie et l'espièglerie, c'était évident que cela collerait au cahier des charges fourni par Jean Dupuis, d'où le calot, la livrée en rouge qu'il avait donnée. Il y a d'autres choses qu'on va apprendre de ce côté-là, notamment comment Robvel a dû donner le personnage, a dû revendre le personnage à Dupuis. C'était pendant l'occupation, ça je le savais plus ou moins comment il travaillait, mais finalement comment Spirou a pu en partie continuer jusqu'en 1943 à paraître, avant finalement d'être suspendu par la censure bien évidemment. En fait, le truc que je ne savais pas, c'est que l'officier chargé de la censure en Belgique était un défenseur de la démocratie et du pluralisme. On se demande ce qu'il foutait là. Il devait avoir une erreur de casting, je pense, hein, quand même, de ce côté-là, auprès de l'Occupation. Et il n'a pas pu, au bout d'un moment, continuer à soutenir le journal. Donc, il a dû arrêter. Tout cela est plus ou moins raconté. Je ne sais pas ce qui fait partie de la légende dorée, honnêtement, hein, parce qu'on imagine bien que Dupuis, derrière, a demandé à un peu contrôler certains textes. Mais je pense, vu le sérieux des signatures qu'il y a dedans, que c'est plutôt correct. Je ne sais pas si d'ailleurs si du sport a un peu feuilleté par la suite après ce qu'il y a.
Ouais, mais pas suffisamment. Enfin bon,
suffisamment. Vas-y, je meuble exprès pour que tu regardes.
suffisamment pour me rendre compte que ce que tu as dit est vrai pour l'instant. Quoi.
On en apprend aussi beaucoup, mais malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est que pratiquement les trois quarts du contenu sont axés sur la période Franquin. Donc les années 1949-1960. 65, si je me trompe, c'est-à-dire à peu près 20 années sur les 75 ans du héros. Ben oui, c'était mieux avant.
46-68.
Et ouais, et je trouve ça vraiment dommage. Parce que, ok, ça permet de faire une excellente rétrospective sur les inspirations de Franquin, on en apprend plus sur les véhicules, la turbo-traction, ce sur quoi il s'est inspiré. On a aussi en avant-première la prochaine turbo-traction, attention. On a aussi des inspirations sur l'ameublement et donc toutes les références directes de Franquin sur le Bauhaus, sur Jean Nouvel et tout ça, on l'a directement. C'est vraiment surprenant. Et même les lampes. Alors là, les lampes, Franquin faisait plus des mix, mais les références étaient directes. Là où, enfin, elles étaient indirectes, mais elles sont frappantes, justement. Il y avait vraiment une modernité, il y avait vraiment une recherche d'esthétique. Et de ce côté-là, c'était vraiment très intéressant. Les auteurs mettent aussi en perspective Franquin et Hergé, qui s'estimaient mutuellement. Franquin, pour lui, Hergé, c'était un dieu, parce qu'il y avait... Il y avait vraiment mais la qualité exacte, je veux dire, du trait. Le trait était définitif, il était fermé, il était parfait. Et Hergé a toujours dit de Franquin, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il sait faire le mouvement. Et là-dessus, bah, on a les deux écoles, l'école Gronet et l'école Linclair, et bah, en fait, qui se respectaient mutuellement. Hein. Il n'y avait pas une qui était supérieure à l'autre, c'est venu bien après de ce côté-là. Non, il y avait vraiment quelque chose qui allait ensemble. Autre chose aussi qui est malheureusement esquivée dans cet ouvrage, c'est les orages des transitions, que cela soit celle de Nick et Covin vers Tom et Jean-Ry. Même si on dit qu'il y avait eu deux équipes en même temps qui travaillaient, que ça a coincé au niveau rédactionnel, on ne dit pas certaines choses. Je trouve ça un petit peu dommage. Et aussi le départ explosif de Jean-David Morvan et Mounou Hera. Il faut dire que Thomas et moi, on a été à Angoulême. Et on a été, au moment où ça s'est fait, et on a été des témoins privilégiés d'une scène où, justement, c'est là où on voit que la renommée et la réussite d'auteur, face au contrôle moral d'un éditeur qui ne veut pas trop faire évoluer son personnage, ça a mené à un clash. Dommage, parce que là, c'était vraiment prometteur. On a peut-être manqué quelque chose sur Spirou. Mais d'un autre côté, je dis ça parce que Johan est un copain. On n'a pas, loin de là, on n'a pas perdu au change. Il y a autre chose qui est arrivée, qui est tout aussi intéressant. On en apprend beaucoup. Bizarrement, il y a beaucoup de livres d'analyse autour de Tintin, alors que Moulinsart va en garder le contrôle absolu et censure au possible. Hein. Il y a des journalistes qui ont laissé leur plume et même qui ont laissé leur maison là-dessus, c'est dommage. Mais bizarrement, nous en avons très peu sur Spirou, alors que Dupuis ne demande que ça. Beaucoup sur les personnages, beaucoup sur les voyages, beaucoup sur les lieux. Beaucoup sur Champignac, beaucoup aussi sur le village de Champignac lui-même.
Ouais, il y a des thématiques, hein, c'est-à-dire que l'historique, hein, ça tient sur une page à chaque fois, des périodes des dessinateurs majeurs. Et après, on s'axe plus sur l'histoire de Franquin qui est développée en long, en large et en travers. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont trait à Franquin. Mais enfin, c'est quand même pas mal, c'est sympa parce que ça permet à quelqu'un qui ne connaît pas trop l'univers de Spirou, de bien rentrer dedans parce qu'on a des thématiques qui sont également explicatives par rapport aux différents personnages. Il y a une mise en rapport, ça tu l'as dit avant, quoi, par rapport à d'autres dessinateurs. Hein. Il y a le coup de comparer les différents composants et différents personnages des héros principaux de Spirou, de Tintin et même Lucky Luke. Alors là, ça c'est rigolo, quoi. Donc c'est vraiment le rapport, très bon boulot.
Le rapport entre finalement la dynamique ou bien le trait bien fini, le côté élastique. Il y a aussi le personnage du marsupilami, comment il l'a travaillé. Il parle aussi un peu des péripéties. Il a été acheté par Disney, puis par Hanna-Barbera, puis il est revenu dans le giron de Dupuis en début d'année. Et il sera de retour dans un prochain album de Spirou. Pas celui qui va sortir, mais le suivant. Tout ça est vraiment intéressant, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça s'ancre trop autour de la période d'argent, celle de Franquin.
Oui, c'est vrai. En ce qui concerne les illustrations, les morceaux choisis, on va dire, quoi. C'est vrai que Franquin est privilégié quand même.
Mais c'est vraiment un beau bouquin à lire, qui donne envie justement de consulter les autres. Beaux-Arts Magazine, hors série, Spirou à 75 ans.
À moins de 10 euros, c'est une affaire.
C'est une affaire, mais uniquement en kiosque, c'est pas la peine d'aller chercher sur Amazon
tout
ou la Fnac.
Fait, ouais.
Alors allez-y, parce que c'est vraiment pour une durée limitée, et je pense vraiment que de ce côté-là, il va vraiment vous plaire. Radio FMR sur 89.1 MHz, il est 12h, 22 minutes, 43 secondes et 976 millième sur l'horloge atomique de la station. Et une petite coupure musicale, je vais se la programmer soft aujourd'hui. Portishead, over. We'll be right back. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. On s'est laissé porter par le doux bruit de la pluie dehors. Et oui, c'est la rentrée. Du sport.
Oui.
Tu nous emmènes au Danemark. Non.
Non. Non, c'est le bouquin que j'ai lu au Danemark, en fait. Entre autres. Alors, pour tout vous dire, c'est un bouquin que j'avais repéré depuis quelques temps, vu qu'il est sorti depuis, on va dire, quelques mois. Mais j'ai eu du mal à l'acheter pour une raison très simple, c'est que le nom de son auteur me rebutait un petit peu. Son auteur, c'est Alan Lomax, le fils de John Lomax, qui sont maintenant dans le monde de la musique traditionnelle américaine, des musicologues renommés. Ils sont morts tous les deux, hein. Le père d'Alan est mort dans les années, fin des années 50, début des années 60, et Alan Lomax, lui, est décédé en 2002. Et en fait, le bouquin que j'ai dans la main, Le pays où naquit le blues, eh bien, est un bouquin qui originellement était sorti en 1993, mais qui n'avait pas été traduit en français à l'origine. Et donc, c'est une première traduction en français de ce bouquin, et qui en plus a été édité avec le soutien de la région Midi-Pyrénées, entre autres, qui a été édité par qui est sorti chez les Fondeurs de Briques, qui est une maison d'édition française, s'il vous plaît. Pas tellement du coin, mais enfin, pas trop loin. Bon, je me suis dit, bon, on va quand même jeter un petit coup d'œil, parce que, en fait, ce sont des musicologues renommés, mais qui ont acquis également une renommée d'intégriste, on va dire, parce que si, non, mais il faut dire les choses comme elles sont, parce que pour eux, il y a eu un moment où une certaine musique a été dévoyée par le commerce, par l'industrie, on va dire, ce qui fait que on ne peut plus tellement appeler blues la musique qui est jouée actuellement et tout, sauf pour certaines personnes, voilà un petit peu quel était l'état d'esprit de ces gens-là. Et puis Alan Lomax, c'est également le mec qui s'est fait connaître, enfin disons ça, je l'ai appris par la suite, qui il était, qui était avec Pete Seeger et qui, lors du festival folk de Newport en 64, quand Bob Dylan est venu jouer en concert, il a fait une première partie en acoustique, c'est-à-dire seul à la guitare acoustique avec l'harmonica, tel qu'on le connaissait. Et dans la deuxième partie, il avait préparé le coup avec le groupe qui s'appelle The Band, et qui allait devenir célèbre par la suite. Et il faisait une partie électrique, c'est-à-dire avec guitare, basse, batterie, clavier, mais électrique, c'est-à-dire amplifié électriquement. Et là, dans les coulisses, Alan Lomax, Pete Seeger, un coup de hache, ont essayé de couper le câble pour couper l'électricité, parce que ça déflorait le côté puriste qui était de ne jouer qu'avec des instruments acoustiques. Dans l'état d'esprit dans lequel... D'accord. Sans rapport aucun avec tout le travail qu'ils ont fourni et dont je vais parler, parce que c'est quand même un très très gros bouquin, mais ce sont des gens qui, dès le début du siècle dernier, on va dire, dès les années 1900-1910, surtout le papa, le papa qui était quand même un enseignant, on va dire, il faisait partie de la classe moyenne, quoi. C'était pas vraiment des pauvres, on va dire, mais c'était quand même des blancs, et qui étaient du Mississippi, c'est-à-dire dans un état sudiste, et ça se passait dans les années 1900, fin des années 1800, donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Et puis l'esclavage officiel avait été aboli, mais ce que les états sudistes avaient fait tout de suite après la guerre de sécession, après l'abolition, ils avaient décrété ces fameuses lois Jim Crow, où ça permettait d'afficher un petit peu partout pas de blacks ici, les blacks ont leur quartier réservé, les blacks ne rentrent jamais par la porte de devant, toujours par la porte de derrière, enfin plein de trucs comme ça. Ils ne boivent pas dans la fontaine dans laquelle les blancs boivent, enfin des trucs comme ça, quoi. Enfin, plein de choses qui s'appelaient tout simplement la ségrégation. En plus, bien sûr, des travaux qui leur étaient infligés parce que à l'époque il y avait encore une grosse industrie du côté sudiste, hein, l'industrie du coton, également l'industrie de construction, l'industrie des transports, et tout ça, ça permet d'embaucher un maximum de blacks. Et qui est d'ailleurs à l'origine un petit peu de ce qu'Alan Lomax a voulu chercher dans ce bouquin, savoir à l'origine du blues, à l'origine de ce qu'est devenu le blues tel qu'on l'a personnifié, tel que eux en fait l'ont personnifié hein, dans le début de ce 20e siècle, à savoir plutôt dans les années 20 et 30 quand ils ont découvert certains musiciens du Delta qui étaient vraiment des bluesmen efficaces mais qui avaient disparu, ils n'avaient que quelques enregistrements. Et c'était eux aussi qui ont été, pas parmi les premiers, enfin qui ont été les plus staccanomistes en matière d'enregistrement, qui partaient sur le terrain avec les tout premiers enregistreurs sur le terrain qui existaient à l'époque. Les premiers enregistreurs, c'était carrément des enregistreurs, on chargeait ça dans une grosse voiture, il fallait bien entendu une source électrique, mais ça fonctionnait, ça enregistrait directement sur un 78 tours, grossi. Gros truc et tout, et ça permettait de faire des enregistrements de 3 minutes maximum. Et à l'époque, c'est en 78 tours, puis après, ça s'est un petit peu amélioré. Et Alan Lomax, jusque dans les années 60, où il a continué justement son travail d'exploration dans des contrées, dans des trous perdus du Mississippi et d'autres endroits, et où il a pu justement recueillir les confidences de nombreuses vieilles personnes qui ont connu cette fameuse époque et qui ont connu également des gens qui ont pratiqué cette musique. Alors c'est tout à fait passionnant parce que on remonte aux racines africaines de la chose. Et Alan Lomax s'appuie sur certaines choses pour que son concept colle tout à fait avec sa vérité bien entendu hein, qui est le blues est apparu à une certaine époque mais il est dérivé de ce qui s'est passé pour les blacks qui étaient au départ des africains qui ont été enrôlés de force, qui étaient emmenés de force sur un autre continent, qui se sont développés d'abord sous l'esclavage puis après sous un semi-esclavage on va le dire, parce que c'était quand même aux travaux forcés. Alors ça c'est bien décrit parce que on parle de choses qui sont arrivées jusque dans les années 30, donc des choses qui nous sont à nous personnellement relativement contemporaines, parce que on a dans nos familles des gens qui sont encore existants et qui ont pas vécu, mais enfin sont nés plus ou moins dans ces périodes-là. Donc c'est vraiment un bouquin très très passionnant et qui plus est vachement documenté au niveau de la musique et des différents textes. Hein, et ça c'est vraiment une source assez incroyable, les différents textes qui permettaient justement de détourner la foi religieuse. Alors la foi, la religion y est pour beaucoup également hein, mais ce n'est pas d'après l'avis de Lomax, ce n'est pas les premiers chants religieux, c'est-à-dire qui a été chanté comme ça dans les églises, dans les premières églises pentecôtistes, les premières réunions, ou pas des églises, hein, c'était juste des tentes qui étaient tendues sous un arbre dans la campagne le samedi ou le dimanche, le seul jour où ils partaient pas bosser dans les champs de coton ou sur les pour construire les digues. C'était des chants qui étaient adaptés, mais vraiment de la tradition religieuse. Et là, Lomax, lui, pense que ça vient d'un petit peu plus loin et que ces chants ont également été adaptés d'une culture qui est beaucoup plus ancienne et qui remonte à l'origine. Et il fait également le parallèle, bien sûr, avec quelques instruments qui ont franchi également l'Atlantique pour aller s'implanter justement du côté américain. Alors très bien documenté, et richement fourni, parce que tous les textes à l'origine sont en anglais. On a tous les textes, pas mal de textes qui concernent des passages de chansons de blues et des trucs comme ça qui sont systématiquement traduits en français, donc c'est très très agréable.
Ça c'est sympa, c'est vraiment justement pour le néophyte.
Non, c'est vraiment très très agréable. En plus, ça a été traduit par Philippe Vassal, qui est un ancien journaliste de best, de rock and folk, de tout ça, depuis plus de 30 ans, donc il connaît un petit peu son sujet. Il y a quelques petites erreurs, mais c'est des erreurs d'interprétation, on peut dire, ça c'est des... des petits discours un petit peu de semi-spécialiste, mais il y a également quelques photos aussi, quelques notes à la fin. Bref, c'est un superbe ouvrage si vous vous intéressez à ce genre de truc. Alors bien sûr, tout se passe pratiquement dans le Mississippi. Alors c'est assez marrant parce que, alors John Lomax, je ne sais pas où il est né à côté du Mississippi, mais enfin bon, du côté de l'Arkansas, juste à côté. Et John Lomax, Alan Lomax par contre, est né à Meridian, Mississippi, et qui est le même patelin où est né un certain Jimmy Rogers. Alors je ne sais pas si c'est
qui
Jimmy Rogers, qui est plus ou moins considéré, enfin à tort on va dire, hein, par beaucoup de puristes, comme le grand-père du blues et de la country.
D'accord.
Donc là, il y a vraiment pas mal de très très bonnes choses. Alors il y a pas seulement des petits inconnus, des petits trucs comme ça, ou les légendes sacrées du blues, telles que Charlie Patton, telles que Robert Johnson et ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui ont une carrière très très brève, très fulgurante et qui ont disparu dans l'anonymat avant d'être redécouverts des années, voire des décennies plus tard, leur œuvre, petite, des fois exhumée et réhabilitée. Et, mais là, il y a également des entretiens faits avec Muddy Waters, parce que John Lomax est un type qui a plus ou moins découvert, pas tout seul, mais Muddy Waters, qui l'a aidé à franchir le pas, à partir de sa petite ville de Clarksdale, dans le Mississippi, pour aller tenter sa chance et voir un petit peu ce qui se passait du côté de Chicago. Donc adapter son blues à une musique un petit peu plus urbaine, plus électrique, alors que son blues du départ est un blues qui est rural, fondamental, guitare sèche, instruments acoustiques et instruments qui sont des fois fabriqués
voire même la planche à laver pour la rythmique, ce qu'on a sous la main, plutôt que dépenser des frics là-dedans. Quoi.
Tout à fait, tout à fait. Il y a également un gros chapitre sur Bill Brunzi, plein de gens que Alan Lomax a connus depuis vachement longtemps et qu'il a suivi encore pas mal de temps. Bref, ce bouquin est absolument passionnant pour cela, même si on ne partage pas tout. Les avis concernant la musique un petit peu plus contemporaine, parce que il n'insiste pas, mais on sent bien que il y a une cassure entre lui, sa vision de la musique, et en particulier du blues et de la folk music, et de tout ce qui est arrivé après, malheureusement. Donc je vous le répète, c'est quand même un bouquin chaudement recommandé. Alan Lomax, Le pays où naquit le blues, chez les fondeurs de briques. Et le prix est un petit peu imposant, on va dire 30€. Mais pour un pavé pareil, vous assure,
Je vous assure que
c'est lourd.
C'est format roman, et vraiment un gros bouquin. Donc avec bien évidemment des conseils d'auditeur, je suppose.
Oui, de toute façon.
Il y a
une bibliographie, il y a une discographie avec des notes qui sont très très bien foutues, qui font référence justement à des disques, à des versions qui ont été modifiées par la suite et tout. De ce côté-là, c'est vraiment très très passionnant. Et là, on s'écoute Tammy Crest, là, à présent.
C'est ce qui est en train de passer, voilà. Extrait de l'album Chatma, le morceau s'appelle John Egg et Too Mast. Donc c'est une... Tammy Crest, ça va sortir prochainement, voilà.
Ouais, ça sort la semaine prochaine, Tammy Crest, leur troisième ou leur quatrième album. Ce sont des bluesmen, mais sahariens, quoi. C'est-à-dire des Africains, et qui jouent un petit peu ce blues électrique, et qui font justement le joint entre ces deux musiques, leur musique traditionnelle, en l'occurrence là ils sont dans le désert, plus bas c'est la même chose, et la musique qui s'est transformée aux États-Unis pour devenir le blues, et après bien d'autres choses par la suite, bien sûr. Tammy Crest donc.
Extrait de l'album Chatma. Donc le premier, je vais rebondir au premier morceau, Tisnan at Chatma.
Désolé pour la coupure.
C'est du CD.
We'll be right back.
Sami Krist, Tisnant at Chatma, extrait de l'album qui sort la semaine prochaine, Chatma justement. C'est le générique d'ouverture de House of Cards, mais le morceau est tellement beau. Musique de Chief Beams. Qui est la série événement de la rentrée sur Canal et ma foi, bah, pourquoi pas, et à vrai dire, oui, c'est vrai, elle est bien. Bon, rappelons que Canal+ a une malédiction sur les séries événements, puisqu'il y avait la fameuse série Steven Spielberg où les gens allaient dans le passé à une terre des dinosaures et ça a foiré.
Ah bon ?
Ouais,
d'accord.
Ça a été un flop total. Et House of Cards, eh ben, c'est une série qui est considérée comme événementielle, etc. Il y en a qui n'ont pas exactement le même avis. Moi, je trouve qu'à la regarder, oui, c'est franchement plaisant et c'est vraiment agréable. Dedans joue Kevin Spacey, qui est le anti-héros principal, l'ordure qu'on apprécie, qu'on aime bien parce qu'on le voit progresser. Mais quel salaud, quel enfoiré, quel sale enfin ce que vous voulez quoi. Il joue donc Francis Underwood qui est un ancien de Harvard, un démocrate de Caroline du Sud et qui a aidé à l'élection du nouveau président. C'est-à-dire il a vraiment tout donné pour passer les primaires et pour qu'il soit élu. Et on lui a promis un poste. Et quel poste ? Lui, il en attendait un principalement. C'est tout simplement celui du ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle donc le secrétaire d'État aux États-Unis. Et malheureusement, on lui dit bah non, finalement, on l'a donné à un autre. On est désolé. Ah ouais, vous le prenez comme ça. Pas de souci. Il fait un pacte avec sa femme. Sa femme gère ce qu'on appelle une charity, hein, une association à but non lucratif, mais qui fait à la fois, je vais dire, des actions de bienfaisance et à la fois des actions de lobbying. Le Clean Water Initiative, Eau sans frontières, on pourrait le traduire comme ça. Donc, avec sa femme Claire Underwood, qui est jouée par Robin Wright, lui dit « Eh ben, on va les faire tomber. Plus exactement, je vais progresser plus haut que ce que eux ils attendent. » C'est facile, il tient un rôle qui est particulier, qui est ce qu'on appelle le whip. C'est-à-dire, le whip, on traduit par fouet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu celui qui donne le la, c'est un peu le chef d'orchestre obscur, entre guillemets, d'un parti politique, donc de la majorité présidentielle au Sénat. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner la doctrine, qui va dire aux députés, il faut voter ça comme ça, non, on va faire plutôt ça comme ça, et tu fais telle doctrine. Et qui distribue les mauvais points à sa manière, c'est-à-dire que ça va clasher très sec. On est aux États-Unis, pays où la moindre industrie militaire est dispersée à travers tout le continent et on est en période de restriction budgétaire, donc on peut décider de fermer tel coin plutôt que tel coin si jamais tu ne votes pas pour ma loi. En même temps, le président s'est fait élire sur un nouveau programme, un nouveau programme de, de l'éducation nationale. Malgré les, il dit que ça va être la grande réforme que tout le monde attend et tout ça, bien évidemment. Lui s'est donné, Frank Underwood s'est donné le malin plaisir déjà de saboter d'entrer ce programme pour y mettre son pied et pour dire non, c'est moi qui va la faire. Et comment il va faire? Et bien tout simplement, il profite, entre guillemets, c'est une association avec une journaliste, Zoé Barnes, jouée par Kate Mara, superbe. Franchement, à tomber cette fille, qui joue dans, qui écrit dans un, dans l'équivalent du Washington Post, qui s'appelle The Washington Herald. Alors il se trouve que il y a une vraie feuille de chou derrière, mais à mon avis, c'est pas celle-là hein, qu'ils ont visée. Il va lui dire, ok, bah on va faire une association. Ok, je te donne des infos, mais c'est confidentiel. Personne ne sait d'où ça vient. Et je te promets une chose, c'est qu'en divulguant ces infos, en étant ma chose, eh ben tu vas passer sur toutes les chaînes de télé et tu vas grimper très vite. Puisque toi, tu as une ambition, moi aussi j'ai une ambition, on va construire quelque chose ensemble. Et il a bien évidemment une autre chose, un député dans lequel, par lequel il va faire un peu tout ce qu'il veut, je veux dire, il s'agit de Peter Russo qui est joué par Corinne Stoll, qui est un député qui malheureusement a des affaires extra-conjugales. Il a aussi une addiction à la drogue et à l'alcool. Hein, ça y va sec sur la coke et tout ça. Bref, il a tout ce qu'il faut, je veux dire, pour avoir besoin de se faire pardonner. Et forcément, à ce stade, c'est un petit peu facile, hein, je veux dire, de le manipuler pour en faire ce qu'on en veut. Alors, la série... Bon. La série est une adaptation d'une mini-série anglaise du début des années 90, House of Cards, qui a été produite par la BBC en 4 épisodes, où là, c'était le whip du Parti conservateur anglais que l'on suivait, puisque c'était là, on était raccroché à des événements directs qui étaient le départ de Margaret Thatcher, et il faut remplacer donc la première ministre, la dame de fer, voilà, je retrouve mes mots. Et d'un autre côté, ben évidemment, on a une bonne saloperie. C'était une réponse de la BBC en fait à une série de ITV qui a vraiment cartonné, qui s'appelait The New Statesman, l'homme le plus à droite du Parlement, qui était une série humoristique,
vraiment,
très méchante,
très
violente.
Dégapante. Ouais.
Ah ouais, acide. Et franchement, je m'étais éclaté à la regarder. Mais la House of Cards, c'est ben donc c'est à l'origine une fiction beaucoup plus politique fiction et plus orientée, je veux dire, sérieux de Michael Dobbs, qui donc a été adaptée. Là où c'est intéressant donc, c'est que d'abord on a un changement, c'est que c'est plus les conservateurs, là du coup ce sont les démocrates, mais on a quand même le côté assez acide et violent, hein, attention.
Est-ce qu'ils sont pas plus conservateurs que les républicains?
Et
des fois.
Justement, on est peut-être loin du brio des dialogues où on décrit toute une politique en marchant, tel que le faisait Aaron Sorkin dans West Wing, à l'aile ouest de la Maison Blanche. Mais là, on a le côté manipulation, hardcore, violent, cynisme. On a un vrai anti-héros que l'on suit, qui est toujours sur la ligne, sur le fil du couteau, entre les négociations avec les syndicats. Vas-y que je vais te retirer ci, mais je vais te donner ça par ailleurs. À récupérer les gaffes, les conneries, ou les couteaux qu'on lui met, les coups de poignard dans le dos. C'est assez jouissif d'un autre côté. Mais je veux dire, justement, il y a ce côté beaucoup moins propre de politique d'Aaron Sorkin. Là, on y va. C'est le jour des poubelles tous les jours. On prépare bien, on savonne bien la pente. On fait du curling, si je peux dire. Attends. Oui, je nettoie devant toi pour que la pente soit encore plus glissante. Et je te promets que tu vas te péter le fémur. Ça y va vraiment sec de ce côté-là. Mais là où c'est intéressant, c'est qui produit la série. C'est pas un network américain, c'est pas une chaîne du câble, c'est Netflix. Netflix, c'est un service de consultation de séries à la demande qui propose un service premium aux Américains. Vous pouvez les regarder sans pub ou vous pouvez le regarder avec des pubs au milieu, au choix. Et ce qu'ils ont fait, le deal qu'ils ont fait avec Kevin Spacey, qui est le coproducteur, et David Fincher, qui est le réalisateur, ils ont dit, eh ben voilà, on vous paie 2 saisons d'avance et allez-y. Donc, vous n'avez pas la pression de l'audience, vous n'avez pas la pression de la coupure en plein milieu. Vous pouvez vraiment construire une vraie intrigue sur le long terme et vous n'avez pas à relancer à cause des pubs, etc. Donc, les gens peuvent se la mater à raison d'une par semaine, hein, une par soir ou tout d'un coup. Sauf qu'aux États-Unis, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on diffuse, On est producteur de la série, c'est en flux tendu, donc on diffuse au rythme de une par semaine. C'est pas les 3-4 des fois dans le désordre qu'on se paie en France. Là, Canal+ nous en a diffusé 3 puis 2 par semaine. Ouais, ok. Mais je dois avouer que j'ai tellement kiffé que dès que la fin de la première diffusion a été faite, je zappais sur le décalé pour revoir parce que c'est vraiment ultra jouissif. Il y a du détail, il y a de la qualité, il y a évidemment, c'est assez contemplatif, on vous laisse le temps. Kevin Spacey est magnifique, c'est-à-dire il va faire un sermon dans une église et il va raconter, il va dire « Oui, pourquoi Dieu m'a pris mon père quand j'étais jeune alors qu'il était jeune et qu'il était entreprenant ?» On y croit, on est dedans et puis tout d'un coup il se tourne vers la caméra, il brise le quatrième mur, il s'exprime au téléspectateur, il dit « En fait je m'en fous complètement, je l'ai jamais connu, ma mère l'a détesté, ma grand-mère l'a détesté, etc. » Et après il reprend. Et t'es là, et tu te dis, waouh! Là, c'est du bonheur en bas. Il y a le quatrième mur qui est brisé. On t'explique, oui, alors dans les négociations, on fait ça. Je s'abonne bien, mais maintenant, on entame les choses sérieuses. Ça joue aussi avec l'intelligence. D'un autre côté, quand même, il y a quelque chose qui a été publié avant-hier. C'est le podcast des séries d'Alain Carazé, qui est maintenant sur allociné.fr. Et il a expliqué une chose. C'est que Kevin Spacey, ben, il a joué dans Wise Girls, un flic dans la mafia. Et il a joué le personnage de Profit, qui était un homme d'affaires. Profit. Bien ignoble et tout ça, c'est vrai. Et il y a eu une série qu'on n'a pas vue, une série spin-off, si elle a été diffusée sur Jimmy. Donc seulement certaines personnes ont pu le voir. Profit, donc la première saison, c'était l'irrésistible ascension dans le milieu de son état. Et ensuite, il n'y a pas eu la deuxième saison. Dans lequel il se lançait dans la politique et son ascension où il devait aller jusqu'au moment où il allait être député. C'était Kevin Spacey qui jouait de Profit et c'était David Fincher qui réalisait une partie des épisodes. Alors, eh ben, y a une filiation à la fois anglaise et à la fois de cette série des années 80. En tout cas, comme dit Kevin Spacey, quand il run ses travers de port... qui dit « Oui, mes origines sudistes au pays du jazz. Hein. » c'est les travers de port, c'est l'une des rares richesses que l'on se faisait. Et c'est comme « Like Christmas in Jolly » quand il découvre que la manipulation qu'il a fait est en train d'éclore en première page des journaux. Là, il est là, ouais. Une chose aussi, regardez-la en version originale. Il y a une expression que Kevin Spacey dit souvent. « You might very well think that I couldn't possibly comment. » Vous pouvez très bien le penser, mais en tout cas, moi, je ne dirai rien. C'est une phrase qui vient de la série anglaise, qui est devenue un classique, qui est très utilisée par les commentateurs politiques et dans les fictions politiques. Et c'est une version qui, à la fois, exprime bien le « off », l'info qu'on lâche aux journalistes du Canard Enchaîné ou de Mediapart. « Va tailler là-dedans, tu as du bon, etc. » Mais je ne dirai rien officiellement. Tu ne sauras pas d'où ça sort. Et de l'autre côté, les menaces à peine voilées. Tu vas en chier si tu fais ça. Et là, c'est vraiment du bonheur en bas. House of Cards, du sport, t'as peut-être vu la série anglaise.
Non, ça ne dit rien du tout. Quoi.
En peut-être, tout cas, mon... très belle cinématographie, très belle bande-son et belle saloperie à l'écran. On sent qu'il y a du budget quand même. Hein. C'est au-delà d'une diffusion d'un grand network. Il y a du pognon. On ne sait pas si ce sera rentable pour Netflix. En tout cas, Canal+ se diffuse en France si vous avez l'occasion. Vous avez cette occasion. Vous pouvez au moins par ce côté-là. Et sinon, House of Cards, la série anglaise, est éditée en DVD en France courant octobre. Petite spéciale dédicace, Urban Dance Squad. Forcément, Démagogue. We'll be right back.
I got a spray can.
Vous allez pas me croire, il m'a fait le coup. Du sport est allé chercher quelque chose et il est pas revenu. Mais vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end, il est 13h03 pile poule. Et ma foi, bah oui, je t'avais dit de coller le micro avant. Sushina, t'es de retour, bonjour.
Oui, je suis de retour, ça y est.
Alors tout à l'heure à 13h30, qu'est-ce qu'il y a?
Et on va parler de plein de choses, et notamment on a des invités qui viennent nous voir pour nous parler du crossfit. Alors si vous connaissez pas le crossfit, c'est vrai que le nom fait un peu énigme, mais bon, on va décrypter tout ça avec justement ces acteurs principaux.
Ça me fait déjà un petit peu suer, j'ai peur.
Crossfit.
C'est du sport, c'est
peut-être
ça.
Qu'on on peut proposer une devinette, celui qui trouve, bon, il pourrait gagner une séance de crossfit gratuite.
Je ne sais pas, on va pas faire ce genre de pari d'entrée. Tout ça pour dire que c'est du sport et que ça me fait peur. Oh mais c'est du sport.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Ô grand gardien de la zapette sacrée.
Ah, direct, donc...
En direct, oui. Clash Buzz et Pôle emploi sur Énergie 12.
On parlera de Kick-Ass 2 la semaine prochaine.
Ah, mais tu me l'as pas dit sur le planning.
Non, mais je sais.
Connard.
Mais tu sais pas que nous, on fonctionne pas avec des plannings, en fait.
Non.
Si, il y a un planning, là. Il y a un planning, alors, qui est plein jusqu'en octobre.
Ben, on va continuer dans les séries avec... de nouvelles adaptations inédites de Valander, mais ça c'est l'adaptation anglaise faite par Kenneth Branagh de la série suédoise qui elle va débuter en 94. La BBC avait repris le concept avec Kenneth Branagh comme patron, c'est-à-dire c'est lui qui choisit tout, c'est lui qui fait tout et c'est lui qui interprète le rôle principal. Et là on en est à la troisième saison, donc une nouvelle adaptée et deux romans. La nouvelle, c'est celle qu'on va voir vendredi prochain à 20h50 sur Arte, qui elle s'appelle Mort clandestine, qui à l'origine a été diffusée l'an dernier sur la BBC. Il y a également une excellente telenovela latine, on va dire, hein, parce que bon, c'est plutôt du côté de Miami que ça se passe. La maison d'à côté, excellente, c'est sur France O tous les jours, du lundi au vendredi, de 20h à partir de 20h05 jusqu'à 20h40, 20h45, très très bien, magnifique. Des doublages que tu crois pas, quoi. Enfin bon, tout pour faire une excellente telenovela.
Ça m'inquiète beaucoup, mais en même temps, c'est le charme des telenovelas.
Ouais. Et par contre, ça tombe juste après les guignols de Canal+, vous zappez sur France O et vous tombez donc sur la maison d'à côté. Ça vaut 100 pesos de cacahuètes.
Non. Laisse-moi faire ce moment. Je te regarde et là, je tourne mon regard, je fais « Maldita ». Ah non, mais non, si non, tu non, me non. regardes pas, Sushinette, c'est pas drôle.
Eh ouais, non, là, Là, c'est vachement plus rapide. Attention, quoi. Feux de l'amour, des top modèles, là, à côté, quoi, c'est rien, quoi.
Il y a 3 morts par épisode, déjà. Ouais, là, déjà le casting est entièrement renouvelé au bout d'une semaine.
Vachement plus.
Ouais, ouais, paraît que c'est le ton que va prendre Plus belle la vie.
Mais ils en ont marre, les acteurs.
On aimerait bien, mais bon.
Mais il se passe déjà plein de trucs dans Plus belle la vie, quand même.
Ouais, ouais.
Il y a des trucs qui se passent jamais en France, quoi.
Et à l'origine, ça, c'est la version. Ça, c'est donc la version, on va dire, américanisée d'une telenovela chilienne à l'origine.
Ok.
Voilà, voilà. Donc, c'est tous les jours sur France O. Il y a également El Diablo qui est diffusé un peu plus tôt, juste après Couleur Océan. Ils sont également des telenovelas, mais enfin bon, c'est vraiment si vous êtes très, très fan.
El Servicio Publico.
Voilà, ça, c'est mon spécial telenovela. Des vacances, mais ça continue donc ça vaut le coup. Bon, alors aujourd'hui, samedi, qu'est-ce qu'on a sur Ciné Plus Club à 20h45, Piège mortel de Sidney Lumet avec Michael Caine, Christopher Reeves et Diane Cannon. Sur TCM à 20h40, En marche de l'enquête, c'est pas la traduction de Dead Reckoning, mais enfin on s'en fout. C'est de John Cromwell avec Lisbeth Scott et Humphrey Bogart. C'est un polar, bien entendu, de 47. Cromwell, c'est le mec qui a fait la version 37 du Prisonnier de Zenda avec Douglas Fairbanks, qui avait fait également Anna et le Roi en 46. The Racket aussi en 51, d'autres polars avec Mitchum et Monsieur Robert Ryan. Sinon, vous n'êtes pas sans savoir, ou si vous avez zappé un peu sur vos programmes, qu'il y avait une nouvelle chaîne qui va apparaître et qui est apparue, oh, comme par miracle, c'était le 6, donc c'était avant-hier, ouais, me semble-t-il. Paramount Channel
Mais ça m'inquiète beaucoup.
Ça t'inquiète beaucoup, tu vas comprendre, parce que je vais vous passer
Paramount
Channel.
Je vous dis, ils ont fait une conférence de presse et t'avais l'impression d'avoir la liste des mots qui avaient été listés par des commerciaux. C'était ce qu'on veut sur Paramount. Alors, du glamour, des stars, du cinéma américain. Ce qu'on ne veut pas sur Paramount, du noir et blanc, du cinémascope.
Ah oui, là, attends. Là,
What the fuck?
Ce soir, sur Paramount Channel, bon, c'est quand même pas mal, c'est une thématique. Alors, il y a des thématiques, hein. Il y en a une sur Richard Gere,
il y en a une autre sur
Tom Hanks, il y en a une autre sur Steven Spielberg. Alors bon, dans l'esprit, tu te dis, ah putain, bon, c'est quand même du haut de gamme. Hein,
Et là, c'est là qu'il y a le mais.
C'est le catalogue Paramount.
Mais il y a quelques petits trucs que vous allez voir un peu plus tard. Ce soir, c'est pas mal parce que bon, c'est Richard Gere. Alors tout d'abord avec un des films qu'il a fait connaître, Officer and Gentleman de Taylor Hackford. Non, Officier et Gentleman, bien avant Pretty Woman. Voyons. Attends, bien plus jeune d'ailleurs. Bien plus déshabillé. Non, bon film de Taylor Hackford et suivi de l'excellent Affaire privée de Michael Figgis, où là je joue le rôle de pourri qui est vraiment excellent, c'est son premier rôle de pourri, et c'est un très très bon polar. Sinon sur FX à 20h50 ce soir, il y a Slayer, rien à voir avec le groupe de métal. C'est de Kevin Van Hook, réalisateur de ciné, de télé passé au ciné, donc qui s'empare de Casper Van Dien, de Jennifer O'Dell et de Tony Plana pour vous faire un espèce de polar vampiresque. En fait, Casper Van Dien, c'est un mec qui est un militaire, donc habillé avec ses fringues de militaire. Son gros flingue qui tire 30 000 balles à la seconde et il doit sauver son ex-épouse des griffes de vampires qui sont emparés de la jungle. C'est absolument passionnant, c'est sur FX ce soir à 20h50, Slayer. Demain sur France 3, le retour de Commissar Montalbano et des inédits avec Une voix dans la nuit.
C'est ma mère qui va kiffer ça.
Ah ouais, mais c'est vachement bien.
Montalbano, elle va lancer les gens pour ça.
Mais c'est excellent, excellent.
C'est produit par les Anglais, donc.
Alors, tu rigoles pas du tout, quoi.
Ah non, je confonds avec l'autre.
Non, là c'est Montalbano, voyons.
Montalbano.
Avigata, ouais, mais. Alors.
Mais il y avait une série anglaise.
Je me suis fait glisser un petit reproche concernant les épisodes un peu plus récents où la partie, on va dire, comique, typique, commedia dell'arte italienne avec le gros flic là qui fait
des sketchs tout le temps.
Voilà,
là.
Qui fait des sketchs tout le temps, quoi, on va dire, qui comprend pas. Enfin, typique de la comédie cinéma italienne, du cinéma comique italien des années fin 50, des années 50, des années 60, voire début des années 70.
Un peu comme le Sergent Garcia de Zorro.
Voilà, et là, bon, on a l'impression que des fois c'est un peu trop souvent. on va dire, par rapport aux plus anciens. Moi, j'ai pas fait gaffe.
Non, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, l'accent italien sur le doublage est rehaussé complet, quoi.
Ah bon, moi, je trouve que c'est
les mêmes. Qu'ils en font encore plus.
Non, moi je trouve que c'est les mêmes, hein, ça va quoi. Pour l'instant ça va.
Ma mère a dit que c'est assez plus, d'accord.
Ah bon, peut-être, ok.
Alors, ça veut dire qu'elle
demain... suit tous les jours. Ah, enfin, tous les jours où ça passe.
Bah oui, oui.
Bah, ils ont amplifié peut-être les gestes.
Alors, sinon, demain soir sur Paris Première à 20h40, ceux qui n'ont pas vu. La véritable histoire de Jack l'Éventreur, la version anglaise en téléfilm de la BBC de 88 en deux parties, David Wickes avec Michael Caine dans le rôle de l'inspecteur Aberlin et Armand Santé. Mais enfin bon, quand vous voyez le casting, vous dites il y a Jane Seymour, enfin il y a plein de gens quoi. Vous dites ouais, d'accord, ok. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est pas mal et tout. Et la fin, on va dire, se rapproche pas mal de la fin du Fromel de Alan Moore. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal, hein, c'est assez sympa. Sur France 4, demain soir, bonne soirée, Bourpif, avec tout d'abord Total Recall de Verhoeven, suivi de Fight Club de Fincher, donc c'est pas mal. Fight Club, c'est le seul club où si vous aimez pas Brad Pitt, bah vous aimez quand même le film, parce que Brad Pitt, bon, ça va, quoi. Paramount Channel, demain soir, vous propose le Terminal de Spielberg, et la chaîne Action, demain à 20h50, vous propose L'Enlèvement de Sabine, de Richard Potier. Et Richard Potier, vous savez pas qui c'est, bah c'est quand même le mec qui a fait tous les films de la fin des années 50 avec Luis Mariano. Ouais. Et là, il s'essaye donc au Peplum avec Georges Amol, Roger Moore en 1961 et Mylène de Mongeau. S'il vous plaît.
Ah, il devait être mignon, Roger Moore à l'époque.
À l'aise.
Ah
ouais. Il devait tomber.
Ah ouais.
À fond.
Non, elle bave pas. Bon, d'accord.
Non, mais avant il va nouer.
La bave aux lèvres et tout.
Avant il va nouer. Lundi, Arte vous propose l'excellent Mission de Roland Joffé avec De Niro, Jeremy Irons, Eden Quinn et tout ça. Mais enfin, bon, très très bon film qui a eu la Palme d'Or d'ailleurs au Festival de Cannes. Sur HD1, lundi, Gone Baby Gone, l'adaptation de Denis Lehan, du bouquin de Denis Lehan par Ben Affleck, pas mal du tout. Sur Polar, La Chaîne, l'original de Stanley Kramer avec Tony Curtis et Sidney Poitier, ben, les deux évadés qui sont enchaînés et tout, quoi.
Ouais,
qui est un raciste fini au départ et tout, qui devient, bon, bah, par la force des choses, bah, il est obligé d'être pote avec lui parce qu'ils sont enchaînés, ils sont évadés et tout, quoi. Mais bon, c'est magistral.
Déjà, c'est l'idée de départ qui est mauvaise. Il aurait pas dû s'évader avec un mec qui peut pas supporter.
Ouais, mais pas le choix, quoi, tu vois.
Tu choisis tes copains, rarement tes enchaînés.
Voilà. Sur FX, lundi, toujours Alphaville de Godard avec Lemmy Cochon, donc Eddie Constantine, Hakim Tamirov et Anna Karina. Et sur Action, le jour des Apaches de James Thorpe. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis, quoi. Avec Glenn Ford et Arthur Kennedy. Mardi, sur Energy 12. Ah là, c'est plus ou moins... mardi, c'est pas terrible, quoi, on va dire. Tout d'abord, Energy 12 qui lui propose
Pourquoi
dans le désordre.
Pourquoi tu zappes pas, là, limite.
Dans le désordre, les deux King Rising. D'abord le 2 avec Dolph Lundgren. Et ensuite, le 1 à 22h25, l'original avec le casting de l'enfer. Mais c'est quand même un UV ball. D17 nous propose Highlander 3, TV Braise, Tango et Cash, Kurt Russell avec Slice, Slice, Terry Hatcher et Jack Palance. Ciné Plus Club, là c'est un peu plus intéressant. Harry Brown, un film de Daniel anglais de Daniel Barber avec Michael Caine, Emily Mortimer et Ian Glen. Et on a sur Ciné Plus Classique La Blonde et le Shérif, un Raoul Walsh avec Jane Mansfield. Mercredi sur Energy 12, là encore c'est pas mal, L'attaque du requin à deux têtes de Christopher Rey avec
Jean
Carmen
Morandini,
Electra,
Jean Morandini,
on passe à la Réunion,
et Brooke Hogan, la fille de suivi de Frankenfish à 22h.
C'est pas ça le pitch, c'est non, pas non. La Réunion.
Non,
le film, le speech, c'est la Trauma Production cherche à faire très vite des sous.
Voilà, c'est ça. Donc à 22h30, toujours mercredi sur Energy 12, après l'attaque du requin à deux têtes, c'est
l'attaque du requin à trois têtes.
Non, Frankenfish, des poissons qui sont cannibales, mais c'est pas des piranhas, ils sont plus gros.
C'est pas des
poussins. Et à 0h10, Mega Shark. Versus Crocosaurus.
Il y avait le producteur de la Trauma qui avait été invité récemment par la chaîne de Geek que je regarde et qui s'exprimait en français, mais français impeccable. Mais alors qu'est-ce qu'il balance comme gros mots et comme saloperie,
c'est parce qu'il kiffe. Très bien ça. Attends.
C'était à pleurer de rire. Franchement, il était génial.
Il a révisé
allez,
avant.
Toujours mercredi.
Ah ouais, mais franchement, faut
toujours
avoir.
Mercredi, toujours dans le téléfilm. indispensable, on va dire, sur AB1 à 20h40. Alerte solaire de Paul Ziller avec Marc Dacascos et Joanne Kelly. Sur TCM, là, c'est pas du tout dispensable, mais parce que bon, c'est deux chefs-d'œuvre de John Ford. Mmh. Tout d'abord à 20h40, La prisonnière du désert avec John Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood. Et à 22h35, Les raisins de la colère du même John Ford.
Magnifique.
Avec Henry Fonda et John Carradine, donc le papa de tous les autres. Eh ouais.
Un film qui a été tourné 9 mois après la sortie du bouquin.
Yep, en 1940. Ouais. Et sur Paramount Channel à 20h40, mercredi prochain. Zoolander,
yeah.
Sur Polar, Quai des Orfèvres,
Jean Chalouzeau.
Là, on dit plus rien, on se tait.
Quai des Orfèvres, lequel ?
Celui avec Suzy Delair, Louis Jouvet et Bernard Blier, bien sûr. Le 47, l'original.
L'original.
Et sur OCS, Choc, Cellule de Sens, l'excellent film de prison espagnol de Daniel Monzon avec Alberto Amann, Carlos Bardem et Luis Tosar, dont je vous ai parlé quand il était sorti au ciné.
Ça manque de femmes, hein, c'est dommage.
Si, il y en a.
Je préfère Jesus Franco quand il fait les films.
Non, c'est mieux ça, quoi. Jeudi sur Paris Première, dernier château de Rod Lurie avec Robert Redford et James Gandolfini. Rest in peace, Mark Ruffalo et Delroy Lindo. Sinon sur Syfy, Piranaconda de Jim Wynorski. Avec Michael Madsen et Rachel Hunter.
Mais tout attaché, Piranaconda.
Ouais. Tout attaché, ouais.
Donc en fait, c'est un piranha qui est aussi un anaconda. C'est ça ?
C'est un anaconda qui
est une gueule de piranha. Ou c'est le pire des anacondas ?
C'est un anaconda qui bouffe avec les dents, quoi.
Oh, truc de ouf.
Il se contente pas d'avaler et puis de digérer, quoi.
Oh,
d'abord, il charcute.
D'accord.
Sur TF6, 300, suivi de Last Action Hero. Ça, c'est une bonne soirée entre familles.
Très bien.
Et sur Signe Plus Classique, The Blob, mais celui de Irvine Yeoworth avec Steve McQueen en 58. Sur Paramount Channel, jeudi prochain, La Légende de Roy Burgundy. Voilà, c'est ça ce qu'on craignait avec Paramount Channel. C'est qu'ils nous abreuvent de ce genre de film. Que c'est des films comiques typiques américains avec des comiques qui ont une super carrière aux États-Unis qui sont hyper connus. Il y a quand même Will Ferrell, Christina Applegate, Steve Carell. Mais toi t'es là, si t'es pas introduit dans le truc et tout, tu capes pas trop. Et puis à la limite, des fois, c'est un petit peu ridicule. Mais ces genres de films, qui vont passer donc sur Paramount Channel aussi, ils ont tout le soc. Alors des fois, c'est vachement bien parce que ça s'attache vachement à la personnalité de l'acteur. Alors avec Ben Stiller, ça peut le faire. Ça peut fonctionner parce que dans Zoolander, il prend le personnage, il prend tout le truc à son compte et ça réussit. Michael Myers y arrive également dans d'autres films parce que il récupère des sketchs qui l'ont fait connaître ou des personnages qui l'ont fait connaître et arrive à bien les développer, c'est bien écrit. Mais là, c'est souvent une écriture qui est un petit peu approximative et qui rend le film un petit peu indigeste pour nous européens.
Ça, c'est les films américains, quoi. On se fait chier rapidement et on voit la fin avant même que ça commence, quoi.
Voilà, c'est un peu téléphoné, quoi, mais enfin bon, ok. Mais c'est le risque de Paramount Channel. Bon, on termine avec vendredi, TCM qui vous propose La Charge des Tuniques Bleues d'Anthony Mann, Richard Preston, Victor Mature, James Whitmore et Anne Bancroft sur Paramount Channel. Alors là, on change radicalement de sujet avec un drame social, le cas 39, un film de Christian Holvast de 2009 avec René Zellweger, Ian McShane, Callum Keith Rennie et Bradley Cooper. Oh ouais, le mec qui bouffe les glaces. Ah ouais, cool. Et je termine avec...
En plus, il parle français, Bradley Cooper.
En plus, il parle français.
Ouais.
Sur FX, à 20h50, vendredi prochain, je termine avec ce Jason et les Argonautes, l'original de Don Chaffee, avec les trucs de Ray Harryhausen et Todd Armstrong dans le rôle de Jason.
Waouh, superbe. Mais il est 13h20. Et on finit en avance.
Ouais.
Ouais, magnifique. Ah, super. Ça veut dire, dans ce cas-là, que... Vous avez soit apprécié l'intégralité de cette émission, soit vous avez manqué des trucs en plein milieu. Qui peut me faire un résumé ? Non.
Ah bah non.
Ah bah sûrement pas moi, parce que je suis arrivé il y a 10 minutes.
Non,
On a parlé du psychopathe, on a parlé des 75 ans de Spirou vu par Beaux-Arts Magazine, on a parlé du pays où naquit le blues, on a fait House of Cards, et d'une nouvelle chaîne qui nous en fait toute une montagne. Si vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions. Pour cela, c'est très facile, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission. Il suffit d'aller donc sur supplementweekend.fr sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. La semaine prochaine, ben ma foi, je crois que Trouble is my business. Oui, quelque chose.
Est-ce qu'on pourra parler du film de Pixar, de Disney, qui s'appelle Boats après Cars, si c'est pas un truc à chier, ça?
Ah oui,
Planes.
Hein?
Planes.
Planes, ça oui, il y aura Boats bon, après. Alors, en fait.
D'abord,
j'anticipe.
D'abord, tu le bosses et ensuite tu me sors 5000 signes et après on en reparle.
Non,
okay.
Planes.
Planes, oui, mais 5000 signes.
D'accord,
mais, voilà,
sur
le
Google
temps.
Write.
Ouais, non, mais c'est scandaleux.
Vous écoutez FMR 89.1. Nous sommes en direct en alternance avec Buster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net, sauf que J s'est tombé, donc il n'y a pas de stream. Mais ne vous inquiétez pas, le supplément week-end sera en podcast d'ici la fin de la journée pour ceux qui ont manqué une partie du début. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Thomas sera back et peut-être même Morgan. En attendant, ciao, bye bye, profitez bien de la pluie. C'est la rentrée, merci à tous, ciao. Et d'ici quelques minutes, donc du sport avec donc les invités qui vont vous parler de cross truc machin, je sais plus, zou.
Le crossfit.
Ah ouais, je me disais aussi. Thank you ou à de la continuity numéro 2. Tu connais pas les voies de la continuité, toi? Attends, je vais te former.